Chapitre 35. Le lendemain, vendredi, en début d'après-midi, le niveau de la Seine atteignait 5,80 m, soit 21 cm de plus que la veille. Les quais de Paris étaient sous l'eau, le RERC coupé, mais le plus inquiétant, c'était ces techniciens de la RATP qui bouchaient l'accès à la station Champ de Mars Tour Eiffel avec des parpaings et du mortier. Du jamais vu. D'après les informations, Vigicru prévoyait 6,20 m le niveau de 2016 pour le dimanche, avec un risque estimé à plus de 70% que le niveau monte encore jusqu'au milieu de la semaine suivante. Certes, la météo s'améliorait. Il ne pleuvait plus en amont, mais le pic de crue était loin d'être atteint. Aussi, le plan Orsec serait lancé dans les heures à venir. La préfecture de police, les pompiers et les milliers d'acteurs impliqués dans les plans de prévention du risque inondation, les PPRI, étaient sur le pied de guerre. En amont, comme en aval de Paris, régnait le chaos. Certaines villes en bordure des affluents de la Seine et du fleuve lui-même étaient envahies par les eaux. À Villeneuve-Saint-Georges, par exemple, les habitants s'apprêtaient à dormir dans les gymnases sous des couvertures de survie, chassés de chez eux par la débâcle. Tout semblait s'accélérer. Les dérèglements climatiques, la folie humaine, la violence. L'homme et la nature paraissaient avoir atteint un point de rupture. C'était à présent un combat à l'issue duquel, peut-être, un seul finirait par subsister. Mais si la nature pouvait exister sans l'homme, l'inverse était faux. Et Charcot résistait au milieu de l'ouragan, point invisible qui courait de bureau en bureau, d'un bâtiment microscopique à l'échelle terrestre. Dans sa sphère insignifiante, il tentait tant bien que mal d'apporter son infime contribution pour arracher le monde à son funeste destin. En dépit des horreurs affrontées la veille, malgré la fatigue qui gonflait comme la crue, de multiples équipes travaillaient d'arrache-pied pour retrouver Fabrice Chevalier et ses deux prisonniers. Gecko et le chef de la police judiciaire sollicitaient l'ensemble des services compétents. Des avis de recherche circulaient dans tous les commissariats et brigades du territoire. L'affaire faisait la une des journaux, en France comme à l'étranger. Le procureur avait communiqué jusque tard dans la nuit, expliquant que la caméra s'était coupée alors que Florence et Bertrand étaient encore en vie, et que tant que subsistait l'espoir, blablabla. Charcot se foutait des médias, des journaux et du baratin. Il bataillait ferme pour avancer, conscient que chaque heure, chaque minute comptait. Tôt dans la matinée, il n'avait pas lâché le technicien de la téléphonie. L'expert s'était acharné à décortiquer les signaux émis par le portable de Florence, utilisé par l'ange pour communiquer avec sa mère. D'après lui, le kidnappeur avait pris soin d'ôter la batterie du portable en dehors de son utilisation, ce qui le rendait intraçable. Les SMS envoyés à des moments distincts, les dimanches et lundis qui avaient précédé, provenaient d'antennes relais situées dans les alentours de Montargis, à une centaine de kilomètres de la capitale. L'ange avait peut-être roulé des kilomètres depuis sa planque pour allumer le portable de Florence et émettre afin de brouiller les pistes. Mais les flics savaient désormais dans quel coin de France concentrer les investigations. Un indice précieux que Charcot avait transmis aux équipes installées dans la salle de crise. Lucie, Pascal et les autres mettaient en place les pièces du puzzle les unes après les autres, décortiquaient la vie administrative de Fabrice Chevalier, scrutaient chaque photo décrochée du mur de sa chambre, avec l'espoir de dénicher sa planque. Personne n'avait encore résolu l'énigme inscrite sur le pacemaker. De même, d'autres flics s'étaient plongés dans les dossiers relatifs à l'affaire du corps lesté dans un étang de Mency, essayant de déceler la moindre faille, le plus petit indice qui leur permettrait d'avancer. Dans son bureau, entre deux coups de fil, Charcot fixait son écran noir, branché sur le site « Manifeste-Ange du futur ». À quoi fallait-il s'attendre dans les heures à venir ? À ce que le film de l'agonie de Florence et Bertrand débarque sur les réseaux et se propage avec un souffle impossible à stopper. Serait-ce à cette occasion que l'ange livrerait son manifeste ? Le flic n'avait aucun doute concernant l'imagination de l'individu qui soulevait l'indignation dans la France tout entière et même au-delà des frontières. La perquisition dans l'appartement parisien de l'homme au pacemaker avait eu lieu dans la matinée avec une autre équipe. Son téléphone portable avait été trouvé sur la table de la cuisine, tout comme ses clés de voiture et son portefeuille. Il avait dû s'en délester juste avant d'aller remettre la lettre à Nicolas aux portes du 36. On en savait plus sur lui. Grégoire Priester dirigeait la start-up My Smart Home, basée en région parisienne. Il vendait de la domotique, des objets connectés au réseau pour une maison plus intelligente, et travaillait sur un projet novateur qui allait révolutionner les comportements, donner par la pensée des ordres simples à des objets connectés comme l'extinction des lumières, l'augmentation du chauffage ou la fermeture des volets. Charcot ignorait le fonctionnement de cette technologie, mais la simple idée qu'elle puisse pénétrer son esprit l'effrayait. Les machines ne se contentaient plus de franchir le seuil de vos maisons. Elles entraient aussi dans votre tête, et il se rappela la deuxième lettre de l'ange. « Vous pensez que Google cherche à conquérir les pays ? Non, son territoire, son empire, ce sont vos cerveaux. » Priester avait été tué parce qu'il prenait l'intelligence artificielle et nourrissait le système. L'ange ne s'était pas contenté de le supprimer à l'arme blanche ou à bout portant. Il s'était arrangé pour qu'une machine s'en charge. L'homme éliminé par sa propre création, en quelque sorte. Le mythe de Frankenstein. Encore une fois, Charcot s'attarda sur le CV de Fabrice Chevalier. Un vrai cerveau, passionné d'échecs et de mathématiques. Après un bac scientifique, il avait intégré l'école 42 fondée par Xavier Niel, le PDG du fournisseur d'accès Free. L'établissement était un incubateur de talents, gratuit, qui formait des cracks aux technologies de demain. À la sortie, Chevalier avait d'abord travaillé sur la sécurisation des réseaux chez IBM, puis rejoint les équipes de Cyberspace. Derrière la façade irréprochable, le monstre. Quand s'était-il radicalisé dans ses idées et avait-il commencé à corrompre le système? À quel moment de son existence avait-il basculé? Audra l'arracha à ses pensées. Charcot lui avait passé un appel quelques instants plus tôt. « Tu voulais me voir ?»«
J'ai eu un coup de fil de Cyberspace, la boîte qui a viré Chevalier. Le patron m'a donné des infos au sujet de la puce RFID, trouvée sous la peau de la victime de Bondy. »
Il lui tendit un papier avec une adresse.
« Va voir ce type. Il s'appelle Alric Sioblad. » Il s'occupe d'un festival qui s'appelle Futur sur scène. L'année dernière, il a créé ici, à Paris, une implant party. La première et la seule du genre en France. Apparemment, il existe des gars assez barges pour se faire implanter des puces électroniques sous la peau pendant des soirées spéciales. L'événement aurait provoqué pas mal de remous chez les associations de bioconservateurs. Et il y a quelques mois, des députés auraient demandé au gouvernement d'empêcher ce genre de pratique.
« Je veux bien, mais je ne serai pas plus utile ici à continuer de creuser la vie de Chevalier ?»«
Tout le 36 creuse la vie de Chevalier. Tout ce qui nous rattache au cadavre de Bondy et aux punisseurs nous rapproche de lui. »
Audra acquiesça, résigné.
« Très bien. Au fait, tu sais où est Nicolas ? Je ne l'ai pas vu. »
« Il a des soucis d'électricité avec sa péniche. Il est passé il y a une heure. Tu ne l'as pas croisé ?»
Elle secoua la tête.
« Il a insisté pour se farcir un nouveau tour de planque à Jeanville, avec un gars de l'équipe Purier. On ne peut pas non plus lâcher la piste là-bas et se permettre de louper le punisseur. Ça consomme des ressources, mais on doit maintenir le dispositif. On ne sait jamais. »
Planquer là-bas, c'était l'enfer. Il parut évident à Audra que leur aventure de la nuit sur le bateau n'était pas étrangère à sa décision de prendre le large. L'avait-elle blessé plus qu'elle ne le croyait? Pourtant, ils se connaissaient à peine. Avant de partir, Audra jugea bon d'aborder la question qui la taraudait depuis le jour où elle l'avait croisé à l'hôpital.
« J'ai cru comprendre qu'on le traitait pour un syndrome de stress post-traumatique. »«
Il t'en a parlé ?»«
Brièvement, pendant notre plan commune, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Je suppose que c'est en rapport avec les attentats de Paris ?»
Charcot secoua la tête.
« Ça n'a rien à voir. Tout l'étage est au courant. Tu finiras par le savoir, toi aussi. Alors autant te mettre au parfum. Mais s'il te demande qui t'a renseigné, tu ne balances pas ton commandant, ok ?»
Audra acquiesça d'un hochement de tête timide.
« Elle s'appelait Camille. Elle était gendarme et une grosse affaire l'a amenée à enquêter avec nous. Nicolas en est tombé fou amoureux en 3 ou 4 jours seulement. » Un vrai coup de foudre, comme on n'en voit qu'au cinéma. Il y a 4 ans, elle a été assassinée dans des conditions abominables. Nicolas était présent quand on a découvert le corps. Il ne s'en est pas remis, et il est passé par tout ce que tu peux imaginer. Ce syndrome de stress, là, c'est quelque chose qui est ressorti dans sa tête il y a quelques mois, comme quand tu ouvres un vieux carton dans un grenier et que tu retrouves ta vaisselle cassée. Cauchemar, idées noires, pensées obsessionnelles. Il n'arrête pas de revoir ces images de mort et de sang. Bref, le traitement est censé le sortir de ce cauchemar.
Audra était mal à l'aise. Elle s'était plantée sur lui de A à Z.
Merci de m'avoir informé.
Nicolas est un survivant, Audra. Il peut paraître solide comme un roc, mais il est au contraire très vulnérable. On lui doit tous beaucoup dans l'équipe. Alors, s'il te plaît, sois cool avec lui. »
Elle ne releva pas les yeux et disparut. Charcot n'était pas dupe. Il avait senti le courant passer entre ces deux-là depuis leur première rencontre. Audra était peut-être la solution au tourment de Nicolas davantage que le protocole. Une photo de sa femme et de ses jumeaux entre les mains, il se dit que l'amour soignait souvent mieux que la médecine. Quelques minutes plus tard, l'objet de sa pensée se matérialisait aux abords du bureau. Lucie.
« Viens vite ! Avec Pascal, on tient quelque chose de sérieux !»